Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio J. Il est 16h01 et c'est l'heure d'un nouveau journal. Au 220e jour de guerre, le Hezbollah a revendiqué des tirs contre Israël pour la 5e fois depuis ce matin. Des tirs effectués contre la région de Bir Hanit dans le nord d'Israël en début d'après-midi. L'organisation terroriste a affirmé qu'elle visait du matériel d'espionnage sur une position militaire. Depuis ce matin, l'organisation a revendiqué, on le disait, 5 tirs vers le territoire israélien. À l'occasion du jour du souvenir Yom HaZikaron, plusieurs hauts responsables israéliens se sont réunis au cimetière du mont Herzl à Jérusalem pour rendre hommage aux civils et aux soldats tombés dans le combat pour le sionisme depuis les années 1860. L'occasion pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de réaffirmer la nécessité de combattre le Hamas dans une guerre qu'il a qualifiée d'existentielle. Le président israélien a lui évoqué les otages toujours détenus à Gaza alors qu'Israël est entré dans son 8e mois de guerre il y a quelques jours. Yitzhak Herzog.
Notre présent ne peut être complet et nous ne pouvons guérir notre société tant que ne rentreront pas tous les otages, nos frères et sœurs bien-aimés qui sont aujourd'hui prisonniers, qui sont dans la détresse. Nous devons tous les ramener chez nous, civils et militaires, ceux qui sont vivants et ceux dont nous avons le devoir de les enterrer selon les rites d'Israël. Et c'est nécessaire pour tout le processus de reconstruction de tous les citoyens qui ont tous dans le cœur, les otages partout où ils vont.
Le président israélien ce matin au cimetière du mont Herzl, ce Yom HaZikaron a également été l'occasion pour certains hauts responsables de faire des déclarations fortes, notamment sur leur rôle dans l'échec de la défense israélienne le 7 octobre. Exemple avec le chef du Shin Bet, Ronen Bar, Pascal Zunshine.
Cela s'est passé ce matin lors de la cérémonie qui s'est déroulée à la mémoire des agents de sécurité intérieure et le directeur du Shin Bet a donc reconnu sa responsabilité dans la catastrophe du 7 octobre. Nous partageons tous ce sentiment de ne pas avoir réussi à fournir au peuple d'Israël cette couverture de sécurité dont nous étions tellement fiers. Nous ressentons tous l'occasion manquée, le sentiment qu'on aurait pu empêcher ce qui s'est passé. Et comme celui qui est à la tête de cette organisation est responsable de toutes ces opérations, je le ressens encore plus fort que tous les autres, a déclaré Ronen Bar, qui a promis une enquête approfondie et ses implications nécessaires. Nous le devons au peuple d'Israël et à tous ceux qui sont tombés, a déclaré le directeur du Shin Bet. Le même aveu et le même engagement de responsabilité exprimé hier soir aussi par le chef d'état-major de Tzahal.
Notre correspondante en Israël, Pascal Zunshine. Les commémorations ont été secouées par des manifestations anti-guerre. Sauver ceux qui sont encore vivants, c'est un devoir. C'est donc l'appel désespéré d'une mère d'otage à Bezalel Smotrich ce matin. La mère du jeune Matan Zengoker aux mains du Hamas depuis 220 jours. Einav Zengoker apostrophait le ministre des Finances aux abords du cimetière d'Ofakim dans le sud d'Israël. Réponse de Bezalel Smotrich, vous avez tout mon soutien. Nous avons le devoir de le ramener et travaillons dans cet objectif. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a lui été hué au cimetière militaire d'Ashdod. Ses partisans du ministre s'en sont pris aux opposants qu'il a hués. Des affrontements qui se sont poursuivis hors du cimetière, écartés par les forces de l'ordre. En France, le projet de loi sur l'aide à mourir est examiné dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi prévoit, comme l'a souhaité Emmanuel Macron, d'ouvrir pour la première fois en France une aide à mourir pour certains patients. Une réforme sociétale attendue, mais aussi source d'inquiétude. Les 71 membres de la commission spéciale de l'Assemblée nationale vont se pencher pendant une semaine sur les quelques 1900 amendements déposés par des élus de tous bords pour modifier le texte gouvernemental en prélude à son arrivée d'ici deux semaines dans l'hémicycle. Enfin, au procès de l'ex-président américain Donald Trump, son ex-avocat veut témoigner. Il a été l'un de ses fidèles lieutenants, mais il a juré sa perte. Michael Cohen est attendu ce lundi comme le témoin clé de l'accusation au procès de l'ancien président des États-Unis pour paiement dissimulé à une ancienne star du X. Après le récit cru livré la semaine dernière par Stormy Daniels sur une relation en 2006 avec Donald Trump, ce témoignage est un autre moment crucial de ce procès historique aux lourds enjeux politiques à quelques mois de la présidentielle américaine.
Radio J.
Radio J.
Tous les lundis, 21h-22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Radio J.
15h-16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Éric Nolot, pour son essai La République. C'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher, que Radio J vous offre pour le gagner. C'est très simple, téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse. Le premier arrivé sera le premier servi. Je répète, le numéro téléphone 01 77 62 72 89. Votre nom, votre adresse et numéro de téléphone. Premier arrivé, premier servi. Dans cette émission, Éric Nolot, il y a une séquence que nous aimons particulièrement qui s'appelle l'introspection.
D'accord.
Et alors, je vais démarrer avec une phrase que vous risquez de beaucoup aimer, qui s'intitule, qui vient d'Oscar Wilde et qui dit ceci. Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Sans doute la connaissez-vous. En tout cas, nous allons tenter de faire cela maintenant, avec 10 questions pour encore mieux vous connaître.
Parfait.
La première est celle-ci, Éric Nolot. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous ?
Depuis le tout début, je me ferais recoller les oreilles.
Un conseil que vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ?
Lis, point d'exclamation. Et lis, deux points d'exclamation.
Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie ? Et si oui, pourquoi ?
Maintenant, je dirais.
Pourquoi ?
Parce que je me sens plus libre que jamais. Il n'y a pas les avantages de la jeunesse, mais je trouve qu'il y a une liberté que j'ai fini par trouver. C'est bien la liberté, je crois qu'il n'y a même rien au-dessus, à vrai dire.
Y a-t-il une chose, de prime abord très compliquée, mais que vous avez résolue ?
Non, il y a une chose très compliquée que je n'ai jamais résolue, c'est le rapport à la mort. Je crois que ça reste irrésolu pour beaucoup de gens, à part ceux qui croient à la vie après la mort, sinon les autres doivent s'affronter ce mystère qui consiste à venir d'un néant et à retourner dans un autre néant. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire, Éric Nolot, mais que vous ne faites pas ?
J'aimerais ne rien faire. C'est vraiment le... J'aimerais, enfin, ne rien faire, c'est-à-dire ne plus faire que ce que j'aime. En réalité, moi, je me pose toujours une question, d'ailleurs, c'est peut-être un exercice philosophique à conseiller à tous. À la fin de la journée, vous vous demandez ce qui vous a rendu vraiment heureux. Et en fait, moi, ce qui me rend purement heureux, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lecture dans un fauteuil, les chats sur les genoux, une tasse de café à la main. Tout le reste, non pas que ça me rende malheureux, mais ça ne me rend pas heureux. Donc, j'aimerais... le temps passe, hein, et j'aimerais accéder au bonheur pur. Voilà, pour l'instant, mon bonheur est impur.
Une chose réalisée cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie.
Cette année ?
2023 à nos jours, dirons-nous. Hein.
Non, il n'y a pas vraiment de réalisation. D'ailleurs, je ne crois pas tellement à... Je ne crois pas tellement à la réalisation, vous savez, quelque chose qui tout d'un coup change votre vie. Je pense que plutôt c'est un processus. Il y a un processus de se réaliser soi-même, d'approfondir certaines choses, qui ne passe pas par une révélation ou un soudain changement d'état, mais plutôt un processus continu.
Si je vous parle d'amour, comment cela résonne en vous ?
Ça fait partie de l'enchantement et du réenchantement du monde. On ne voit pas le monde de la même manière selon qu'on soit amoureux ou pas. Donc je pense que les gens qui vivent sans amour vivent dans un monde parallèle et amoindri.
Si vous pouviez changer une chose, une seule, Eric Nolot, soit sur votre corps, soit sur votre personnalité, que choisissez-vous ?
J'ai déjà répondu sur mon corps. Dans votre...
Ce sera ça ? Ça
dans votre ça. Première question.
Ok.
Mais c'était une boutade parce qu'on finit par s'habituer à son physique. Après, peut-être que dans mon caractère, peut-être que je prends les choses peut-être trop à cœur. Voilà, parfois. Peut-être que un peu de bouddhisme me ferait du bien.
Ok, vous choisissez le bouddhisme, on l'entend. Si vous étiez président, même si visiblement ça n'arrivera jamais, non. Mais il ne faut jamais dire jamais, vous savez, Eric Nolot. Quelle serait la première mesure que vous prendriez ?
De reprendre en main l'école, comme je vous l'ai dit, c'est mon leitmotiv. Je mettrai tout le paquet sur l'école, le reste suivra. L'intendance suivra, comme disait le général de Gaulle. Mais l'école, il faut la reprendre maintenant, il est minuit moins une. J'espère qu'il n'est pas minuit une, je veux croire qu'il est minuit moins une.
Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ?
Que j'ai essayé de dire honnêtement ce que je pensais, de mettre mes actes en accord avec mes pensées.
Merci Eric Nolot. Tout
Merci
de suite, on découvre un coup de cœur sur Radio J.
Radio J.
15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Bonjour Rémi Guirao. Si
Bonjour.
C'est comme ça que ça se prononce, Guirao.
Guirao, hein, c'est ça.
Guirao. Allez, parfait. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et réalisateur. On découvre en exclusivité une version d'un titre que vous avez sorti il y a un petit moment, une version alternative de votre single Nous irons tous les deux, issu de votre premier album Je serai là. Et on revient sur Radio J.
Tous les deux là où le temps ne s'enfuit pas, on gardera ce qu'on voudra.
avec ce titre Nous irons tous les deux, une version alternative d'un single sorti il y a quelques temps maintenant qui était Nous irons tous les deux également. On va écouter la version originale pendant que nous sommes en train de parler. Vous venez de sortir votre premier album, 11 titres, Je serai là. Qu'est-ce qu'il y a de vous sur ce premier opus, Rémi ?
Il y a, je pense, beaucoup de sincérité, évidemment, je pense comme plein d'artistes, beaucoup d'amour et d'envie de voyage. Je pense parce que on est beaucoup dans le carcan du quotidien, on évite de se confronter des fois aux choses réelles, évidentes, qui sont l'amour, le plaisir et l'entourage. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans cet album.
Donc l'amour, les voyages, l'envie en tout cas d'aller loin, j'ai envie de dire, et peut-être main dans la main avec un bouquin pour faire plaisir à notre invité aujourd'hui, Éric Nolot. Alors pour parler de vous, Rémi Guiraou, vous avez sorti pour la première fois en 2022 ce single que nous sommes en train d'écouter. Mais juste avant, vous aviez un groupe de rock.
Oui, tout à fait, que j'ai toujours.
Donc vous continuez en parallèle, en solo et en groupe.
C'est ça, tout à fait, parce que c'est vraiment deux manières de travailler différentes. Et en plus avec le groupe, je chante en anglais dedans, on est vraiment sur du rock, donc il y a un côté organique qui me plaît beaucoup.
Arabella,
et le travail de création est différent. Du coup, c'est plaisant d'avoir ce parallèle-là, en fait, sur la création.
Ce single que nous sommes en train d'écouter, il a reçu un très bel accueil en radio. On sait que c'est pas toujours facile pour les artistes de pouvoir entrer en radio. Quel est votre secret pour ceux qui nous écoutent ? Est-ce qu'il y a un secret d'abord ?
Alors, je n'ai aucune recette, si ce n'est travailler avec beaucoup de passion et d'amour et de plaisir avec des belles équipes et des belles personnes et travailler dur.
Quelles sont vos influences aujourd'hui pour la chanson française, dirons-nous ?
Je suis bercé par des grands classiques. J'adore Francis Cabrel. Mais si on va chercher, on va dire, j'adore Étienne Dao, Francis Cabrel, Mathieu Chédid. Mais si on va chercher du plus actuel, j'aime beaucoup Clara Luciani. Sinon, c'est assez ouvert hein, dans la variété. La chanson française, j'aime ce côté grande variété.
Ouais. On va écouter l'écho d'un silence sur l'antenne de Radio J.
On attendait qu'il soit un peu trop tard, je crois. L'écho d'un silence. On était proche, tu vois, d'une idylle qui parfois touchait l'évidence. Dans l'incendie, je vois, trop tard encore une fois, ce feu qui nous devance. Et si l'on s'aperçoit dans les flammes aux abois, d'un son comme une relance. Et j'entends déjà résonner ta voix dans l'écho d'un silence. Reste un écho de toi. Et j'entends déjà résonner ta voix dans l'écho d'un silence. Reste un écho de toi. On croit ce que l'on voit. On croit en qui, à quoi, dans l'écho d'un silence.
Voilà, on ressent cette inspiration, Souchon, Étienne Dao, encore Gaëtan Roussel dans cet univers très pop-rock que l'on découvre aujourd'hui avec vous sur cet album Je serai là. D'ailleurs, il y a un titre Je serai là qui a été diffusé aussi pas mal en radio. On va écouter pendant que nous sommes en train de parler, Rémi Guiraou, le titre Rose également. Sur l'antenne de Radio J, l'occasion également de dire que vous n'avez pas du tout la trentaine encore et aujourd'hui vous débarquez dans plusieurs playlists de radio un petit peu partout, notamment en région, moi aussi j'imagine sur les playlists streaming que l'on peut retrouver sur nos téléphones. Est-ce qu'il y a des actualités à donner, notamment des concerts, parce que du coup on a très envie de venir vous voir?
Bien sûr, oui. Déjà, premièrement, en fait, je viens de Grenoble. Du coup, c'est un plaisir de faire cette sortie d'album le 18 avril dans une belle salle grenobloise.
Qui s'intitule
la salle L'Empérage.
L'Empérage, 300 places à peu près.
C'est ça, voilà. Et il y aura une date sur la rentrée septembre 2024 à Paris qu'on est en train d'organiser avec toute mon équipe aussi.
Et je tiens à dire qu'on a écouté un titre en exclusivité Radio J quand même qui sortira le 19 avril, qui est donc Nous irons tous les deux voilà, sur cette version plus alternative. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rémi Guiraou, et s'il y a un coup de pouce à donner ?
Eh bien déjà la démarche est géniale et c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et me souhaiter du bonheur, de la réussite. De la réussite, c'est un bien grand mot, ça veut un peu tout et rien dire, mais déjà du bonheur et puis continuer à en vivre le plus longtemps possible.
Aujourd'hui, ça vous permet, votre carrière musicale vous permet d'en vivre justement, ou il y a quand même un métier à côté?
Bien sûr, ça fait partie intégrante de mon métier parce que je fais de la musique pour d'autres aussi, mais ça contribue, ma carrière entre guillemets contribue évidemment à gagner ma vie, bien sûr.
Mais ça, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes en indépendant ou vous êtes produit? Et ça peut donner une petite idée si quelqu'un nous écoute pour un coup de pouce.
Oui, je suis accompagné par un éditeur qui est de fait mon producteur, mais nous sommes évidemment continuellement à la recherche de partenaires, ça c'est évident.
Musicien également?
Oui.
Voilà, c'est lancé.
Guitariste, c'est ça.
C'est lancé. Merci beaucoup Rémi Guérao d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Pour vous retrouver, il faut venir sur Instagram Guérao, G-U-I-R-A-O, Rémi, avec un I, et sur Facebook également Guérao Rémi. Merci beaucoup d'avoir
été
notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. On écoute la fin de ce titre et ce sera le portrait de notre invité sur Radio J. Compris, Eric Nolo, et à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer tout ce qu'on s'est dit, et oui, parce qu'il fallait qu'il y ait une utilité, donc on va débriefer votre portrait dans le regard de Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie.
Bonjour Cyrielle, bonjour Eric Nolo,
bonjour
aux auditeurs. Effectivement, je vous ai observé et écouté attentivement, j'ai pu noter quelque chose, et je vais vous faire un rapide reflet, voilà, une synthèse de ce qui s'est pour moi détaché. Voilà, de ce que vous avez bien voulu montrer de vous ici aujourd'hui, uniquement à partir de ce que vous nous avez partagé. Alors évidemment, j'ai tout de suite observé votre posture, voilà, comme en ce moment même, les bras croisés, mais toujours très au devant de la table, jamais en train de s'appuyer sur le dossier, donc comme pour témoigner peut-être d'une hypervigilance, ou en tout cas d'une attention très présente, et je dirais très, très sensible aux questions, et avec un talent oratoire qu'on vous connaît bien, mais vraiment une élocution assez claire, comme un besoin d'être très bien compris, entendu. On sent que vous maîtrisez les médias de la radio, bien sûr, donc vous êtes un peu ici chez vous, il y a voilà, ce n'est pas la première fois que l'on vous reçoit. Il y a évidemment ce mot, qui est l'unique mot qui suffira à vous décrire aujourd'hui, non pas vous définir quand même, parce qu'on a vu d'autres choses, c'était le mot lecteur. C'est vrai qu'on vous a beaucoup retrouvé dans ces pages sacrées, vous nous le dites, qui sont porteuses de passion et d'enrichissement. On sent bien que vous êtes construit au travers de tout ça. Évidemment, vous nous décrivez au tout début une enfance dans un climat de famille, dirais-je, voilà, classique, comme pour reprendre votre mot, une classe moyenne, ça veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, on sent qu'il y a eu des parents présents et qui vous ont transmis à leur image certaines passions. Peut-être que maman, en tant que professeur, a pu aussi vous donner le goût de ce calme, de cette solitude. Vous nous le disiez un petit peu plus tôt, il y a vraiment ces mots silence, concentration et solitude qui ont peut-être été déjà cultivés lors du tout petit et qui, voilà, vous permettent d'aller faire le calme aussi à l'intérieur, même s'il pouvait y avoir dans la maison de l'agitation à l'extérieur, peut-être même dans le quartier. Et on sent que ce tempérament à l'époque aussi peut se trouver parce que vous êtes dans un cadre où les écrans, les jeux vidéo n'existent pas de la même façon qu'aujourd'hui. Donc évidemment, vous avez trouvé refuge et je pense beaucoup d'imaginaire qui a été pratiqué. Donc Vous avez un palmarès professionnel tout à fait impressionnant et très multicasquette, multitalent. Vous vous êtes essayé à beaucoup de postures et j'ai la sensation que vous êtes à l'aise avec chacun, mais qu'elles viennent dans un ordre où il y a une logique, il y a des fils qui se tissent et comme vous le partagiez tout à l'heure, vous ne croyez pas à la réalisation, c'est un processus continu. En psychothérapie, en psychanalyse, on appelle ça le processus d'individuation. C'est des choses qui arrivent pour faire que l'individu, au sens de l'indivisibilité, soit vraiment dans l'unité totale. Et j'ai la sensation que vos différents métiers vous ont donné cette participation à la construction de votre être, non seulement de l'homme professionnel, de l'artiste, de l'auteur, de l'essayiste, mais aussi de l'homme que vous êtes. J'ai senti qu'il y avait un fil rouge, peut-être même une passerelle entre les deux mondes qui pouvait peut-être nourrir l'un et servir l'autre. Lequel ? À vous de nous le dire. Mais j'ai senti ça. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, évidemment votre admiration et votre amour pour les grands auteurs cités plus tôt. Vous appliquez, vous nous le dites, à révéler ce qui est caché. Vous n'êtes non pas un éducateur comme l'a suggéré Cyrielle, mais un éclaireur. Je me suis demandé s'il y avait cette clairvoyance aussi avec vous-même en tant qu'homme, si vous aviez fait ce chemin-là vers vous-même.
Je crois qu'on reste en grande partie une énigme à soi-même. C'est pas seulement les autres l'énigme, mais c'est soi-même. L'énigme, c'est assez troublant d'ailleurs. Et moi, j'ai pas théorisé ça, c'est-à-dire je n'ai jamais fait de psychanalyse, je ne suis pas tellement versé dans l'introspection. Je pense que c'est les actes qui finissent par vous définir. Donc je suis plutôt sur cette voie-là. Après, à propos de ce que vous avez dit, ça m'a rappelé d'autres choses que j'ai oublié de mentionner, l'importance de mes grands-parents maternels, parce que c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire avant l'école.
Ah, tout à fait.
Comme quoi, c'était possible, et j'étais pas un enfant surdoué, croyez-moi, mais à 4 ans et demi, je savais lire, écrire, compter, donc c'est possible.
Ouais,
quand on nous explique aujourd'hui que c'est une tannée et que vraiment c'est très difficile, un enfant moyennement doué comme moi y arrivait parfaitement, et puis mon grand-père, qui était un lettré, qui passait beaucoup de temps à lire, qui avait failli entrer dans les ordres d'ailleurs, était un homme de peu de mots. Et ça m'a beaucoup, cette intériorité m'a aussi beaucoup marqué. Mes grands-parents ont une importance presque aussi grande que mes parents,
que
je les ai beaucoup fréquentés. Voilà.
Donc, et notamment la lignée maternelle. Ouais.
Voilà,
ouais.
On est héritier de son enfance, hein, des données immédiates de son existence.
Et oui, on se construit dans son jus, bien sûr. Alors
après, j'ai du mal avec l'introspection, je dirais, parce que c'est pas quelque chose qui m'est naturel, parce que je suis beaucoup plus porté à entrer en communication avec justement avec des auteurs via les livres. C'est ça j'entre et quand vous lisez, ce que vous éprouvez, ce que vous pensez en lisant, vous en apprend beaucoup sur vous-même.
C'est ça, c'est les questions et les réponses au travers du récit.
Absolument.
Qui est un support finalement, hein, bien sûr, de projection.
Absolument. Donc c'est pas
d'identification. Si vous
voulez, mais c'est des bribes, c'est-à-dire que chaque livre vous apporte une bribe et moi je n'en fais pas un tout. Voilà, c'est peut-être qu'on devrait tous, en tout cas moi, s'appliquer à peut-être s'auto-définir de manière un peu plus précise.
Peut-être rester avec des questions.
C'est pas ma pente naturelle, voilà.
Ouais, mais vous avez fait ce chemin-là, on le sent bien, notamment votre goût pour le bouddhisme, et notamment j'entends le sous-titre du détachement, hein, le fameux détachement, le fameux lâcher prise.
Malheureusement, c'est ambivalent parce que le but suprême du bouddhisme, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire de plus éprouver rien du tout.
Alors évidemment,
on ne souffrait plus, mais il n'y a pas d'émotion positive. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre. Donc, le bouddhisme en tant que tel, comme aboutissement, c'est pas. Voilà. Mais si j'étais un peu plus bouddhiste dans ma vie, je pense que oui, on peut
saupoudrer un peu de bouddhisme comme ça, avec parcimonie. Et je sens qu'il peut y avoir, comme vous le disiez, un attachement à la souffrance, mais un attachement au plaisir également, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup, ce mot-là, plaisir, passion de la littérature, curiosité, bien sûr. Ça tient une grande place, en effet. La transmission, l'éducation également ont tenu un grand espace ici aujourd'hui, la politique. Donc votre tempérament ici a pu être révélé, celui d'un homme engagé, résistant, voilà, qui est défenseur de la langue française et de l'art d'apprendre. Je vous dirai merci aujourd'hui. La petite synthèse que je peux apporter, c'est que vous êtes ici en face de moi un éclaireur affamé de savoir. qui apporte l'espoir et qui invite à goûter au plaisir du sacré, de la lecture.
Ça me va très bien. Merci beaucoup.
Merci. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie Dodrieu, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J.
15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Et on finit avec la personne que vous aimez le plus, je crois, Parker Graham. Merci beaucoup, Eric Nolot, d'être venu nous voir.
Merci à vous pour votre invitation.
Et c'est La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. Merci pour cet échange. Merci à l'artiste Rémi Guiraud d'avoir été mon coup de cœur du jour. Très talentueux, ouais. Voilà.
J'avais pour cet variété, album, mais je trouve que c'est là. Une sorte de pop rock plutôt qui est
tout à fait.
Pop. Vous avez digéré ses influences magnifiquement.
Et ben voilà, ben l'album sera partagé en coulisses. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Alan Lucas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Alban Bartoli qui est en face de moi pour mon plus grand plaisir pour son nouvel EP. Et oui, un album, La Pause. À demain, cher Alban, à demain, à toutes et à tous sur l'antenne de Radio J. Portez-vous bien.
Radio J. Tous les lundis, 21h-22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadjar. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider, ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend, soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.
Oh,
Radio G.
Radio G.
Radio G.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Une journée spéciale, effectivement, ce matin et tout au long de la journée. Ce Yom HaZikaron, Israël traumatisé qui pleure ses morts. Israël qui marque ce lundi le jour du souvenir, donc en mémoire des soldats tués au combat et des victimes du terrorisme. Aujourd'hui, à 11h, heure israélienne, c'est une sirène d'alerte qui retentira pendant 2 minutes, suivie d'une cérémonie au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. Et puis, bien sûr, dans les 53 cimetières militaires et nationaux de l'État juif. Pour parler de cette journée, nous sommes en direct, en ligne ce matin avec Yehuda David, médecin militaire de réserve. Bonjour Yehuda.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on vous voit pour ceux qui sont sur YouTube justement et pour ceux qui nous regarderont plus tard sur YouTube, vous êtes en direct d'un cimetière je crois, le cimetière de Beit Almin de Savion, hein, c'est bien ça? Que se passe-t-il exactement?
Tout à fait, mais nous nous apprêtons à commémorer le souvenir de tous nos soldats qui ont habité cette localité, qui ont été mes amis, les amis de mes enfants. Et comme chaque année, nous sommes tous ici réunis pour cette minute, ces 2 minutes absolument mémorables. Mmh.
Alors justement, vous parlez de vos amis, des amis de vos enfants. Que représente aujourd'hui cette journée du Yom HaZikaron? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier dont vous souhaitez nous parler, nous raconter l'histoire?
Écoutez, à l'entrée de ce cimetière, il y a une petite stèle qui rappelle l'acte de bravoure d'un certain soldat, Ethan Merkel, qui a sauté sur une grenade il y a de cela bien longtemps, une quarantaine d'années, pour sauver tous ces soldats dont il était le commandant. C'est à peu près dans cet esprit que nous commémorons le souvenir de tous nos soldats qui sont des héros, des plus que des héros. Nous commémorons leur étincelle de vie. Et de cette étincelle jaillit, en fait, dans le cœur et dans l'âme de tous ceux qui se trouvent ici, de tous les jeunes, de toutes les personnes âgées, cette flamme de retentissement de la vie que l'on va non seulement programmer, mais aussi continuer dans tout le pays et dans le monde entier, envers et contre tout.
Et justement, Yehuda, vous souhaitiez, alors je crois, si c'est possible, bien sûr, pour ceux aussi qui nous regardent sur YouTube, nous montrer des jeunes qui sont vêtus de chemises blanches avec un symbole sur leur chemise. Alors si c'est possible, évidemment, d'en trouver, sinon ce n'est pas grave, mais peut-être nous expliquer aussi qu'est-ce que ça symbolise.
Alors ce symbole sur leur chemise, c'est une fleur rouge qui est le signe des Maccabim. Ça s'appelle la fleur d'âme des Maccabim, d'âme Maccabim, symbole de la victoire de la minorité sur l'immense majorité qui, soi-disant, est plus forte que nous, mais en fait, nous les vaincrons comme nous le faisons depuis quelques 4000 ans, et nous irons jusqu'au bout. Et j'ai un petit ridouche. Comment est-ce que l'on pourrait traduire ridouche? Un renouvellement d'idées à tous les ennemis d'Israël qui disent du fleuve jusqu'à la mer. Nous, nous disons du fleuve jusqu'au fleuve, c'est-à-dire du Nil jusqu'à l'Euphrate.
Mmh. Alors, il faut le rappeler, Yehuda David, vous êtes médecin, donc médecin militaire de réserve. Vous avez été mobilisé depuis le 7 octobre. Comment ça s'est passé pour vous, justement, sur place? Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi en quoi consistait votre travail?
Le 7 octobre, à 6h du matin, j'étais dans les rues de Tel Aviv, vers 6h15. J'ai appelé tous les amis que je pouvais appeler. Et je leur ai dit, Israël est attaqué sur tous les fronts. J'étais persuadé que sortiraient de tous les coins de rue des terroristes. Selon un certain livre qui décrit parfaitement cette situation et que je vous recommanderai, qui s'appelle Messia. C'est-à-dire que tous les Arabes israéliens se soulèveraient en même temps que le Hamas et que le Hezbollah pour envahir Israël. Je suis parti tout de suite dans mon unité. J'ai essayé de rattraper mon ami le général Yair Golan, qui est lui parti toute seule, presque les mains vides, avec une seule arme, et qui a sauvé avec sa simple voiture de civil des dizaines de jeunes qui étaient emprisonnés dans la fête de Nova. Nous sommes partis par la suite avec toute mon unité. La première semaine, en fait, était dans le nord. Nous sommes revenus dans la bande de Gaza. Et là, j'ai fait une guerre, depuis 40 ans, j'ai fait toutes les guerres d'Israël, un petit peu pas comme les autres.
Ouais.
Ce coup-ci, j'étais responsable de 3000 soldats de logistique technologique israélienne, c'est-à-dire le cœur de l'armée, et nous avons organisé à peu près l'évacuation de 15 000 blessés.
Alors, malheureusement, c'est un lourd tribut que perd Israël dans cette guerre. Vous le dites, une guerre qui n'est pas comme les autres, hein, cette guerre qui a été déclenchée par le Hamas le 7 octobre. Plus de 630 soldats ont été tués depuis les attaques du Hamas. Comment vous imaginez, vous, la suite de cette guerre? Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'un accord est possible avec le Hamas, que le Hamas va finir par libérer les otages? Et est-ce que tout ça vaut le coup, finalement? Toute cette guerre vaut la peine? Toutes ces pertes aussi de soldats qui sont mobilisés, souvent très jeunes, qui sont sur le front?
Personne ne connaît l'avenir, mais le pays est divisé, bien entendu, comme à son habitude. Non pas en deux, mais en 13 parties, comme les 13 tribus d'Israël. En gros, certains pensent qu'il faut tout faire pour ramener les otages, même au coût d'un prix exorbitant, c'est-à-dire la libération de milliers de terroristes. D'autres pensent qu'il faut tout faire, rentrer dans Rafiah et récupérer ce que l'on appelle nos étincelles de sainteté, personnalisées par les otages. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je sais tout simplement que dans une quinzaine ou deux jours environ, nous aurons vraisemblablement à nous occuper de notre front.
Vous pensez au nord d'Israël notamment?
Oui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a environ 150 000 à 200 000 personnes qui sont évacuées de leur maison. Certaines familles n'ont même pas de gîte pour faire la Shiva, c'est-à-dire les 7 jours de deuil. Ils sont dehors dans des tentes. C'est une situation totalement intolérable que le Hezbollah nous impose. Et nous ferons ce qu'il fera.
Oui. C'est-à-dire, vous pensez qu'une opération terrestre aujourd'hui serait peut-être la seule solution aussi pour mettre fin à la mainmise de ce territoire du sud Liban par le Hezbollah? Une opération israélienne serait peut-être une solution pour y mettre fin?
À mon avis, il n'y a pas d'autre solution, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dont on ne veut même pas y penser. C'est-à-dire une attaque massive, une ré-attaque massive de l'Iran. Et à ce moment-là, une certaine situation qui est décrite dans le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, pourrait s'engager. C'est-à-dire la guerre de Gog et Magog.
Alors effectivement, je commence à voir qu'il y a du monde qui arrive, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, dans le cimetière, donc le cimetière de Beit Almin, hein, de Savion. On va vous laisser justement rendre hommage. On va aussi entendre dans une vingtaine de minutes la sirène d'alerte retentir du Yom HaZikaron. Peut-être un dernier mot, Yehuda David, si vous avez un message à adresser, qu'est-ce que vous souhaitez dire?
Tout à fait, j'ai une seule phrase à dire, qui est bien connue. Netzach, Israël. L'Oïchaker, l'éternité d'Israël, ne sera jamais démenti.
Merci beaucoup. Merci Yehuda David d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J en direct donc d'Israël, les 53 cimetières militaires effectivement et nationaux de l'État juif qui sont aujourd'hui bien remplis effectivement pour rendre hommage à tous ces soldats tombés au combat et ces victimes du terrorisme. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J.
Ilana Ferradian. Radio J.
Commémorer Nitaï Meisel et Amichar Ben David en faisant don d'une ambulance pare-balles au Magen David Adom. Au mois de décembre, en effet, Nitaï, 30 ans, tombé au combat à Gaza à l'âge de 30 ans. Il servait dans une unité de blindés d'élite. Sa mission, rechercher des otages. Pour en parler et pour lui rendre hommage ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir son père en ligne avec nous. Nitaï Meisel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Votre fils, effectivement, Nitaï, a été tué le 24 décembre dernier. C'était un soldat israélo-américain, puisque Nitaï est né à Baltimore, aux États-Unis. On va évidemment parler de lui. Mais c'est aujourd'hui d'abord le Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Comment ça va se passer pour vous, cette journée très spéciale?
On va être plus tard au cimetière. Déjà hier soir, on a eu une cérémonie au centre de la ville où on a commémoré tous ceux qui sont tombés, et plus tard, aujourd'hui, on aura une cérémonie au cimetière là-bas où que Nitaï est enterré.
Alors, on disait votre fils est né aux États-Unis. Effectivement, c'était un soldat de réserve, donc. Mais je crois qu'en fait, vous ignoriez qu'il faisait partie d'une unité d'élite. Il vous l'avait pas dit. Hein.
Oui, ça c'est vrai. Il était dans le service régulier. Il était dans les tanks et puis aux réserves, au Milouim. Il a été bénévole dans une unité élite, mais à nous, il n'a rien dit. Il a dit qu'il continue d'être dans les tanks et même dans la guerre. Lorsqu'il avait commencé il a commencé la guerre le premier jour. Déjà au Simchat Torah, il était à l'armée. On lui appelait à l'armée. Et il a combattu déjà la première semaine. Mais à nous, il a seulement dit qu'il aide à des autres, qu'il fait de la logistique, car il ne voulait pas que nous, on avait peur.
Oui, il ne voulait pas vous inquiéter, en fait. C'est ça.
Oui, ça c'est juste. Un autre détail, peut-être, que vous dites qu'il est né en Amérique, ça c'est vrai. Mais moi, actuellement, je suis de la Suisse, de Bâle. Alors, il était aussi suisse.
Oui. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour lui, justement, ce jour du mois de décembre? Comment il a combattu les terroristes? Est-ce que l'armée vous a donné, justement, quelques détails sur sa mission qu'il était en train d'opérer sur place?
Absolument, oui. Ce jour, on avait d'informations qu'il a quelques bâtiments où il y a des otages. Et on a envoyé une mission spéciale du commando pour chercher ces otages. C'était une rue. À deux côtés de la rue, il avait des bâtiments et on ne savait pas où exactement ils seraient les otages. Et au milieu, dans la rue, il y avait le tank de Nitaï qui aidait et a donné du couvert pour les commandos, et les commandos sont entrés dans les bâtiments. Ils ont cherché un appartement après l'autre, une chambre après l'autre, et au milieu il avait le tank de Nitaï, et lui il est avancé doucement, et puis ils ont vu qu'il a un camion au milieu de la route.
Oui.
Et pour en tirer sur cet camion pour vérifier si ça va exploser ou non. Et puis, ça n'est pas explosé. Alors, ils ont avancé jusque là-bas. Et puis, les terroristes ont lutté sur le tank RPG. Et ça a tué, oui, immédiatement.
Comment vous avez appris, vous, la nouvelle? Comment ça s'est passé pour vous les jours qui ont suivi? Est-ce que l'armée vous a tout de suite annoncé sa mort? J'imagine que ça a été très brutal. Comment vous l'avez vécu?
Ça s'est passé à 10h le matin et à 2h l'après-midi, la même journée. J'étais à la maison, j'ai travaillé de la maison. Et il y avait des 3 soldats qui sont venus pour me dire que Nitaï est tombé. Et puis, c'est un choc, bien sûr.
Ouais.
Et là, après, on a envoyé des autres soldats pour notifier ma femme et tous les enfants. Et eux, ils sont venus chez nous à la maison. Et on a été tous étant ensemble, toute la famille était ensemble. Oui, c'était très dur.
Alors, on sait que près de 400 000 réservistes ont été appelés justement en Israël le 7 octobre pour défendre Israël, venus des quatre coins du monde pour défendre le pays, comme Nitaï. Que représentait justement Israël pour Nitaï et comment vous souhaitez qu'on se souvienne aujourd'hui de lui?
Nitaï aimait très beaucoup Israël. Il était toujours, lorsqu'il avait du temps, il était dehors, il a fait des excursions dans le désert, il a habité à la fin à Be'er Sheva, au sud, et il a fait des excursions dans le désert. Il a toujours fait attention de ramasser de la poubelle s'il a vu. Il avait toujours un sac de plastique avec lui pour ramasser s'il y a quelque chose qui ne doit pas être là-bas. Et chaque journée, lorsqu'il avait du temps, il a été dans une oasis pour écouter de la musique et être dans la nature.
Ouais. C'est vrai qu'on a pu lire aussi sur le site du Magen David Adom, puisqu'il était volontaire depuis 2009 au sein du MDA, il ne cessait jamais de sourire, c'était sa marque de fabrique, il souriait beaucoup.
Il a commencé d'être bénévole de l'âge de 16 ans, et il avait toujours, ça c'était quelque chose de très très important pour lui. On a même reçu plus tard WhatsApp qu'il a envoyé à quelqu'un qui n'était pas sûr s'il veut faire de la bénévole ou non. Et Nitaï a lui écrit, pour moi, c'est l'activité la plus importante que je fais dans ma vie. D'être là pour des autres et aider à des autres. Et des autres.
Et aujourd'hui, vous avez décidé avec votre famille, avec les amis de Nitaï, justement, de lui rendre hommage en achetant, c'est très symbolique, une ambulance du MDA, hein, c'est ça, hein.
Exactement, car pour lui, on a cherché quelque chose pour continuer la fête, comme il était dans sa vie. Et dans sa vie, c'était très important pour lui d'être dans les MDA. Alors, on a décidé de faire aussi quelque chose qui continue sa activité.
Et on peut, évidemment, si les auditeurs veulent aussi rendre hommage à Nitaï, on peut encore participer, justement, pour participer à l'achat de cette ambulance?
Absolument, oui. C'est parce que c'est une ambulance blindée, alors c'est plus cher. Et tout de même, on avance doucement, mais c'est possible de donner, de soutenir cette campagne si on va à la site de MDA France.
On ira sur le site, effectivement. Alors, quelques dernières questions, Ethan. Des centaines de personnes ont participé aux funérailles de Nitaï dans le cimetière militaire de Rehovot, hein, je crois. Comment vous vous êtes senti? Vous vous êtes senti justement soutenu par le peuple d'Israël, par le peuple juif qui a manifesté, aussi pour chaque soldat qui est tombé, une participation assez incroyable?
Oui, j'ose dire que c'était plus que cette centaine, c'était des milliers. C'était des mille qui étaient, et aussi dans la Shiva, toute la semaine, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues, même des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Seulement, il a écouté que Nitaï était tombé dans la guerre, et ils sont venus pour d'être avec nous, même des personnes qu'on ne connaît pas. c'était vraiment quelque chose de tout en Israël.
Et est-ce que vous êtes en lien aujourd'hui avec d'autres parents endeuillés? Est-ce que vous vous soutenez? Est-ce que qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous appréhendez les choses? Est-ce que vous faites des rencontres pour vous soutenir justement?
Oui, absolument. On a des rencontres avec d'autres parents. Aussi, dans le tank de Nita, il y avait un autre soldat qui était aussi tué à la même instant. C'était Ari Rein. Alors oui, on est au contact avec ses autres parents, car c'est très difficile pour toutes, pour tous.
Alors pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire justement aux auditeurs, un dernier mot aussi peut-être, un message d'espoir, puisqu'on sait que la guerre n'est pas finie, hein, ça fait maintenant plus de 7 mois qu'elle dure. Qu'est-ce que vous souhaitez dire, Ethan?
Je crois que le plus important, c'est d'être unis et regarder à la future. C'est pour cette raison que nous, on fait cette campagne pour une ambulance qui va sauver des autres vies, car nous, on continue la vie en Israël continue, et ça c'est la chose correcte, et c'est pour cette raison que nous on fait quelque chose pour la future, pour sauver des autres vies.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Ethan Mezel d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Vous avez une journée effectivement assez compliquée qui vous attend. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et évidemment, on peut faire un don en se rendant sur le site du Magen David Adom pour participer notamment à l'achat de cette ambulance en hommage à votre fils. Merci beaucoup Ethan et à très bientôt.
Merci beaucoup.
ילד ההולך לו לאיבור, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, דגימה קטנה של מים מעייני הרוחה, תביא להם את התקווה.
Arim Roshi, Shai Gabzo ce matin sur Radio J. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos émissions, toutes nos chroniques à retrouver bien sûr sur notre site internet radioj.fr et sur notre chaîne YouTube.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés,
c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy.
L'orchestre s'installe des professionnels,
come on boy,
et c'est moi qui s'interpelle.
Hey Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur. Jusqu'à la scène, dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis.
comme il tombe, Jugling tombe. Un peu parti, un peu naze, je sens de la boîte de jazz.